Bien, ce matin, nous allons porter nos regards dans la parole de Dieu, dans un livre de l'Ancien Testament. Au cours de cette semaine, j'avais commencé à relire une ancienne prédication que mon papa avait apportée justement sur ce passage que nous allons voir ce matin. Et puis ça m'a encouragé aussi à approfondir un peu plus ce livre et de vouloir aussi partager avec vous ce que nous pouvons puiser dans ce livre. Et je vous invite à regarder donc à Malachie chapitre 1er. Et nous regarderons aux 5 premiers versets de cette prophétie de Malachie. Verset 1er, nous lisons « Oracle de l'Éternel à Israël par Malachie. « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé ?» Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront. Et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Alors, les prophètes de l'Ancien Testament, on peut les catégoriser en trois catégories. Il y a les prophètes qu'on on va prendre comme repère, si vous voulez, l'exil à Babylone. Donc, il y a les prophètes pré-exiliques, les prophètes qui étaient là pendant l'exil, et les prophètes qui ont eu ce ministère après l'exil, donc au retour d'Israël dans ces terres. Et Malachie fait partie de cette dernière catégorie de prophètes. C'est des prophètes qui ont eu un ministère, oui, important, et celui de Malachie à certaines particularités qu'il convient aussi de souligner par rapport à ce que nous pouvons vivre également, même aujourd'hui. C'est que on a, avec cette prophétie de Malachie, l'Éternel qui va, oui, s'adresser à son peuple, et il le fait sous forme de dialogue, en fait. Vous avez pu voir un peu cela, où l'Éternel affirme quelque chose, « Je vous ai aimé ». Et il y a ce questionnement de la part du peuple d'Israël, en quoi nous as-tu aimé? Et ainsi de suite, donc, dans cette prophétie de Malachie, on va voir qu'à plusieurs reprises, l'Éternel va avoir ce dialogue avec son peuple, va leur montrer, leur affirmer une vérité, mais une vérité aussi qu'eux-mêmes soient ont mis en doute, ou qu'eux-mêmes n'ont pas suivi et ne sont pas rendus obéissants à Dieu par rapport à ce qu'il leur demandait. Et donc les parallèles qu'il y a entre cette époque de Malachie et la nôtre sont nombreuses. Quand on prête vraiment attention, on peut voir et comprendre comment eh bien, ce prophète qui a vécu il y a des milliers d'années par rapport à nous, eh bien, ses paroles sont toujours d'actualité, sont toujours aussi saisissantes, même pour nous aujourd'hui. Le peuple d'Israël, à ce moment-là, attendait toujours, bien sûr, l'avènement du Messie, attendait l'accomplissement de la promesse de l'Éternel par rapport à cela, tout comme nous aujourd'hui, eh bien, nous attendons aussi son retour, nous attendons l'accomplissement de cette promesse de Christ, de Dieu pour nous, qu'un jour il reviendra, qu'un jour il prendra son Église auprès de lui et qu'il régnera. Mais ce que l'on voit à travers cette prophétie de Malachie, c'est que le peuple d'Israël avait développé une attitude malsaine vis-à-vis de Dieu. Et pour nous, en relisant ce livre, eh bien, nous devons nous rappeler que ben, nous ne sommes pas dans une obligation de suivre ce même schéma, que nous pouvons eh bien, vivre une vie par la foi, une vie qui honore le Seigneur, et de voir que lorsque le prophète a appelé le peuple à faire confiance à l'Éternel, eh bien, nous pouvons tout autant avoir cette même confiance. Et donc, dans ce passage que nous avons lu, la première chose que l'Éternel va adressé envers son peuple, eh bien, c'est son amour. Ce l'on voit, c'est un peuple qui a douté de l'amour de Dieu pour lui. Je crois que la plupart d'entre nous, il y a eu ce moment dans notre vie chrétienne, peut-être, où, à cause des circonstances, à cause de certaines difficultés, des épreuves, etc., où nous avons douté, peut-être, de l'amour de Dieu. Mais je crois que ce passage nous interpelle à justement ne pas douter, à ne jamais cesser de croire en l'amour de Dieu pour nous. Oui, dans ce passage, Dieu souligne son amour pour Israël. Il affirme qu'il les a aimés dès le commencement. Et Malachie donc révèle cet amour de Dieu pour son peuple. Et cela doit nous encourager également, nous, aujourd'hui, à réfléchir à la manière dont nous répondons à cette affirmation. Je vous ai aimé. Quelle réponse donnons-nous à cette affirmation de la part de Dieu? En reconnaissant la fidélité de Dieu, malgré nos défauts, nous sommes invités donc à renouveler notre engagement à vivre pour lui, à renforcer notre foi, en comprenant, bien sûr, l'intensité et la valeur et la réalité de l'amour de Dieu pour nous. Donc ne cessons jamais de croire en l'amour de Dieu pour nous. Et j'aimerais donc, à travers ce passage et puis peut-être d'autres versets, eh bien, nous rappeler de ces vérités-là. Je crois que la première chose qu'il faut comprendre et qu'il va nous aider justement à faire confiance dans cet amour et à comprendre que l'amour de Dieu pour nous est quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous ne devons pas laisser les circonstances déterminer la réalité de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu, il est là. Il est présent. Il est déclaré. Et nous l'entendons. Nous le lisons. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vécu. Mais parfois, c'est vrai qu'il nous arrive d'oublier cet amour. Et même de douter de cet amour. Quelle déclaration saisissante, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel pour débuter cet oracle. Et quand on a ce terme oracle ici, dans les Écritures, c'est vraiment un terme qui est employé pour renforcer l'idée que oui, l'Éternel s'adresse à son peuple, mais que c'est quelque chose de solennel, de grave, qu'il va y avoir des reproches. Un peu, c'est l'idée peut-être aussi que quand on peut entendre et déceler dans le ton de la voix de nos parents lorsqu'ils nous interpellent et on sait que, ouh, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la première chose ici que l'Éternel va mentionner, il va déclarer le fait que « je vous ai aimé ». Et donc ce livre ne commence pas par un résumé de ce que le peuple a fait, hein, comme on peut le voir dans d'autres prophéties, dans d'autres passages. Il débute par cette affirmation « Je vous ai aimé ». On a là un début assez redoutable pour cet oracle, car le Seigneur exprime son amour et son action « Je vous ai aimé », mais cette déclaration, elle est immédiatement suivie de cette réponse de la part du peuple que l'Éternel savait, qu'il avait entendu, qu'il voyait dans le cœur de son peuple. « En quoi nous as-tu aimé ?» On a ici une sorte de cynisme qui ressort de cette question-là. En quoi nous as-tu aimé? Là était le problème. Le premier problème que l'Éternel a décelé ici dans son peuple, c'était le doute par rapport à l'amour de Dieu et un doute qui les a même amenés à avoir ce cynisme dans leur cœur. Et c'est cela exactement que nous devons veiller à ne pas suivre cette voie-là, ce chemin-là. Cette lutte qui est tout à fait humaine, on va dire, cette lutte qui fait rage en nous lorsque, oui, on laisse les épreuves, les difficultés, les souffrances, les attentes irréalisées, peut-être les prières inexaucées, ou parfois même la culpabilité par rapport à ce que nous savons de nous-mêmes, eh bien tout cela nous submerge au point que ça nous empêche de voir l'amour de Dieu pour nous. Pour Israël, leurs circonstances, leurs attentes les avaient amenés à douter de l'amour de Dieu pour eux, et cela avait même développé ce certain cynisme que nous voyons « En quoi nous as-tu aimé ?» Comprenons bien que lorsque nous doutons ou lorsque nous nions même l'amour de Dieu, nous revenons à nier Dieu lui-même, n'est-ce pas? Dieu, dans sa parole, nous révèle que lui-même, il est amour. Et de nier le fait que Dieu nous aime revient à nier sa personne même, revient à nier ce qu'il est. Et à la lecture des passages qui entourent les événements du retour de l'exil, de la reconstruction de la ville de Jérusalem, du temple, on pourrait penser que là, le peuple d'Israël, ils avaient tout pour être heureux, d'être satisfaits, de voir finalement l'amour de Dieu pour eux n'a jamais cessé. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Il y a eu de grandes réalisations, des réalisations positives qui ont marqué ce peuple. Et pourtant, malgré tout cela, à l'époque de Malachi, eh bien, on constate cet état d'esprit négatif par rapport à leur relation avec Dieu, par rapport à leur compréhension de l'amour de Dieu pour eux. Miles Bennett, qui est un érudit de l'Ancien Testament, justement sur cette période de l'époque de Malachi, écrit ceci. On y trouve un esprit de morosité, d'abattement, qui s'était emparé des habitants de Jérusalem. Le scepticisme et l'indifférence spirituelle tenaient le peuple sous leur emprise. La vague de scepticisme qui traversait le pays affectait aussi bien la population que ses chefs religieux. La religion se réduisait largement à une affaire de rituel. L'apathie, l'avarice envers Dieu prévalait. Alors oui, nous sommes surpris de découvrir cette nation juive dans un état aussi déplorable, surtout après la captivité à Babylone, surtout après le fait que Dieu les a ramenés dans cette terre promise, Dieu les a aidés à reconstruire, à rebâtir et à retrouver ce temple dans lequel ils pouvaient venir et adorer l'Éternel. Oui, ça a été une période longue. Tout ne s'est pas fait tout de suite. Il y a eu une longue attente. Il y a eu de l'opposition. Mais au final, là, à l'époque de Malachi, ils avaient retrouvé tout ce dont ils avaient besoin pour louer l'Éternel, pour apporter les sacrifices, pour redevenir cette nation à laquelle l'Éternel les avait appelés et à être un exemple pour les autres nations. Et pourtant, ici, les contemporains de Malachi donnent des signes qu'ils avaient oubliés. Oubliés les grâces et les faveurs de l'Éternel pour eux. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment est-ce que ça peut nous arriver à nous d'arriver à ce même état d'esprit, de douter de l'amour de Dieu pour nous? Si on regarde un peu à ce qui s'était passé préalablement, on avait deux prophètes, Agé et Zacharie, qui avaient prophétisé concernant la reconstruction du temple, que ce temple allait surpasser celui de Salomon, que le peuple lui-même avait conclu par rapport à cela, que pour que ça se réalise, pour qu'il y ait un temple encore plus grand et plus vaste et plus glorieux que cela, il fallait vraiment que l'accomplissement de la promesse de l'avènement du Messie se réalise. Et pourtant, les années ont passé sans que le peuple ne voit cela se produire. Ils avaient associé une promesse à des faits qu'eux, ils pouvaient voir, et que finalement, de ce qu'ils voyaient, ils se demandaient où est la promesse, où est l'accomplissement de sa promesse. Le temple était achevé, mais aucun événement marquant n'indiquait que la présence de Dieu était revenue pour le remplir de gloire. Et par conséquent, le peuple continuait à accomplir les rites, à accomplir les sacrifices. Mais l'amour était absent, le désir, l'enthousiasme, la vraie motivation de venir dans la présence de l'Éternel était complètement absent. Alors ce peuple, oui, qui était appelé à vivre en s'appuyant uniquement sur la parole de Dieu, dans l'attente qu'il agisse à nouveau avec puissance au milieu d'eux, et l'attente, les années qui passent, ont fait en sorte que, eh bien, ils se sont découragés et ont perdu confiance. Ils aspiraient à voir certainement les manifestations de cette puissance divine dont ils avaient entendu parler par leurs ancêtres. Ils aspiraient à voir se produire en eux, hein, ce que l'Éternel voulait faire pour eux, l'accomplissement de toutes les promesses, etc. Mais voilà, face au doute, eh bien, ils se sont retrouvés finalement loin de l'Éternel, au point de douter même de son amour pour eux. Donc oui, ici, Dieu reprend son peuple. Il reprend sévèrement son peuple par cet oracle, mais surtout avec cet objectif de leur montrer encore une fois qui il est en affirmant cette vérité, je vous ai aimé. La vérité, lorsque Dieu nous reprend, est souvent dure à entendre, difficile à accepter. Parce que l'Éternel, oui, nous met face à nos manquements, nous met face à nos péchés, nous met face à nos désobéissances et à notre manque de foi. Et c'est difficile. Ici, on a une déclaration qui est sérieuse lorsque l'Éternel entend de la part de son peuple, en quoi nous as-tu aimé? De ce doute présent dans leur cœur. Oui, la vérité est dure à entendre, mais la vérité, elle est nécessaire. Elle est nécessaire justement pour nous libérer du péché, pour nous relever, pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous donner la sagesse de voir, de discerner lorsqu'il y a du mensonge, cette sagesse nécessaire pour lutter contre les faux raisonnements que nous pourrions même avoir, comme ce fut le cas ici pour le peuple d'Israël. En quoi est-ce que tu nous as aimés? Ils étaient venus à un faux raisonnement. Mais la vérité demeure. Je vous ai aimé. Christ lui-même avait rappelé à ses auditeurs que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ici, c'est vraiment une question de la déclaration de la vérité venant de Dieu et ce que nous faisons de cette vérité. La manière dont nous allons réagir à cette vérité, la manière dont nous allons soit l'accepter ou la rejeter. Le fondement même de notre foi repose sur la parole de Dieu, repose sur cette vérité déclarée, qui nous révèle justement la nature même de Dieu, la nature de l'Éternel. Dieu est amour. Mais lorsque on néglige de lire, de méditer la parole de Dieu, eh bien, nous en venons à l'ignorer. Nous en venons à mettre en doute ce que nous avons retenu de nos lectures, de nos méditations précédentes. Et à ce moment-là, faut pas être étonné. Faut pas être étonné si on développe ce même cynisme. En quoi est-ce que tu nous as aimés? J'ai pas l'impression que Dieu m'aime. Les choses qui se passent dans ma vie, mes luttes, mes difficultés, mes épreuves, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Le problème, bien souvent, c'est que nous nous permettons de déterminer la manière dont Dieu devrait nous manifester cet amour. C'est lui qui aime, et c'est lui qui choisit la manière dont il manifeste son amour. C'est pas à nous de dire, Dieu, je veux que tu fasses ceci pour me prouver que tu m'aimes, parce que Dieu a déjà prouvé cet amour. Nous devons chaque jour, donc, prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Prendre le temps de contempler cet amour de Dieu, de cette grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ et qui continue de déverser sur nous chaque jour et d'inonder nos prières, justement, d'actions de grâce pour cet amour. Rappelez-vous de ce que le psalmiste dit dans le psaume 103 au verset 2, il dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et je crois que la clé est vraiment là. C'est lorsque nous ne prenons pas le temps de voir les bienfaits de Dieu là où ils se trouvent et que nous les oublions. C'est un effort de notre part d'ouvrir nos yeux sur l'amour de Dieu pour nous et de voir cette grâce qu'il manifeste sur nous chaque jour. Mais quand on oublie de compter justement les bienfaits de Dieu, on finit par développer ce même cynisme. On finit par développer ce même doute. En quoi est-ce que tu nous as aimés? Parce que ce Dieu qui est fidèle a montré cet amour de manière constante, parce que lui-même est constant. C'est pour ça que Paul rappelle également aux Thessaloniciens, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Toutes choses, c'est quoi? C'est facile de rendre grâce, d'être reconnaissant pour quand tout va bien. Mais souvent, quand tout va bien, pendant longtemps, on finit par prendre l'habitude que tout va bien. Et on en fait une norme, une normalité. Et on oublie d'être reconnaissant pour cela. Mais rendre grâce en toute chose, c'est aussi de rendre grâce à Dieu lorsque il nous reprend. De rendre grâce à Dieu lorsque il y a les épreuves. Parce que ces épreuves qu'il permet dans notre vie, c'est pour nous aider à nous débarrasser du péché qui est encore là dans notre vie, de nous aider à nous débarrasser des mauvaises habitudes que nous avions. Tout est faussé. Comprenez bien ça, que tout est faussé dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne, dès que l'on commence à douter de l'amour de Dieu pour nous. Parce que si on en vient à cette conclusion-là, eh bien Dieu n'est plus bon. Alors, si Dieu n'est plus bon, si cet amour qui nous dit qu'il a pour nous, nous ne le voyons pas, c'est là où il devient facile de chercher satisfaction ailleurs, dans d'autres lieux, là où le monde cherche à nous attirer, eh bien la tentation devient beaucoup plus difficile à résister lorsque nous doutons de cet amour, de cette bonté, de cette bienveillance de Dieu pour nous. Et plus on se laisse attirer, absorber par le monde, par notre chair, par ses aspirations, par les préoccupations du monde, notre relation avec Dieu se détériore davantage. Le fait de ne pas vivre selon l'Esprit, de ne pas être sauvé, le fait de ne pas marcher selon l'Esprit, de ne pas vivre en conformité avec la volonté de Dieu, nous éloigne de Dieu. Je crois que c'est assez simple et évident, ce concept que plus nous sommes proches de Dieu, plus cet amour, nous allons le ressentir. Et être proche de Dieu, ça ne peut être possible que lorsque nous nous avançons vers lui avec humilité, en reconnaissant nos torts, nos transgressions, nos péchés, en confessant, en nous repentant de cela et en recherchant sa présence. L'amour de Dieu n'a jamais cessé et ne cessera jamais. Il ne change pas. Dieu est amour, mais Dieu également est immuable. Et si Dieu est immuable, son amour est immuable. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'amour inconditionnel de Dieu exige une réponse de notre part. Soit nous pouvons avoir avec cynisme et amertume la réponse que donna le peuple d'Israël à cette époque. En quoi nous as-tu aimé ? Soit nous lui apportons une réponse qui émane de la foi, qui émane de notre décision de vivre pour lui, de nous accrocher, de persévérer, de vivre de manière authentique cette foi. Mais ce que nous devons voir également, et c'est la deuxième chose à souligner ici, c'est que cette déclaration d'amour de Dieu, elle est intemporelle. Intemporel. La réponse à l'amour de Dieu devrait être une action basée sur ce que nous avons reçu, d'être reconnaissant, cette gratitude par rapport à sa fidélité envers nous. Il a continué de nous aimer. Et souvent, même dans les Écritures, l'Éternel va employer cette image du couple, du mariage, pour montrer que lui a été toujours fidèle malgré notre infidélité, malgré le fait qu'on soit allé voir ailleurs. Dieu a toujours été présent, a toujours été fidèle, et n'a pas regardé nos errances comme une raison de ne plus aimer. Dieu n'enlève jamais son amour, mais il nous appelle à reconnaître et à honorer cet amour à travers, notre adoration, par nos chants, par nos prières, que ce soit ici à l'Église ou à la maison, par nos actions, par nos choix de vie. Tout comme le fait que l'amour de Dieu soit immuable du fait de la nature même de Dieu, il nous faut comprendre également que, puisque Dieu est éternel, son amour est éternel, intemporel. C'est également ce que Dieu déclare par la bouche du prophète Jérémie. « Je t'aime d'un amour éternel ». Est-ce qu'on prend pleinement conscience de la signification de ces paroles-là? De savoir que dans l'éternité passée, avant même la création du monde, Dieu nous a aimés. Et que dans l'éternité future, Dieu continuera d'aimer parce que c'est ce qu'il est. Il est amour. Il est le seul à pouvoir faire une déclaration de cette importance, de cette grandeur. Moi, je ne peux pas dire « je t'aime d'un amour éternel à mon épouse ». Ah, ce serait beau, ça serait romantique, mais ça ne serait pas vrai parce que c'est impossible. Dieu est éternel et son amour est éternel. Notez bien que cette déclaration « je vous ai aimé » montre que Dieu, à plusieurs reprises, a manifesté son amour, a déclaré son amour et qu'il a choisi d'aimer Israël. Lorsqu'il parle ici, en réponse à la question d'Israël, « En quoi nous as-tu aimé ?» Dieu dit, « Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob ?» dit l'Éternel. « Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. » Dieu a fait un choix. Il a fait un choix envers le peuple d'Israël. Il a fait un choix de les aimer, d'en faire son peuple, d'en faire cette nation qui était supposée être à son service, qui était supposée être une lumière pour les autres nations. Et cela devait déjà être un fondement incroyable pour le peuple d'Israël de comprendre que si Dieu nous a choisis, c'est qu'il nous a aimés. Voyez, comme Jean nous le rappelle dans sa première épître au chapitre 3, verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Ce choix que Dieu a fait pour Israël à l'époque, c'est ce même choix qu'il a fait pour nous tous, de ce que ce serait par le sacrifice de Christ, par sa grâce, par cet amour manifesté en Christ, que par le moyen de la foi, eh bien, nous puissions être rachetés et être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes par Christ, par son amour. Mais pour qu'Israël soit son peuple, il fallait qu'il soit choisi, il fallait qu'il soit différent, il fallait qu'il lui appartienne. Mais ça signifie aussi que avec ce choix-là, les autres peuples, eux, ont été rejetés, n'ont pas été choisis. Et ici, le Seigneur leur rappelle, en les invitant à penser justement à leur père Jacob et à son frère Ésaü pour illustrer justement l'étendue de son amour pour Israël, parce qu'il a choisi Israël. Tout comme il a choisi de donner la possibilité à tout être humain d'être pardonné de nos péchés. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'Israël ait entretenu une relation d'alliance particulière avec Dieu? Dieu a fait un choix. Il a fait un choix souverain, il a fait un choix en toute connaissance de cause, il est omniscient. Il savait ce qu'Israël allait faire, tout comme il sait tout ce que nous allons faire. Mais ce n'a pas déterminé son amour ni pour Israël, ni même pour nous. Il a choisi Jacob, il a rejeté Ésaü, et il exprime donc un amour délibéré, voulu, choisi, un amour exclusif. Parce que comprenons bien tout de même que même si Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le fait que maintenant, par Christ, nous sommes ses enfants, nous bénéficions davantage d'amour de sa part. Oui, Dieu, il est bon, il accorde sa grâce quotidienne sur chaque être humain, bon et méchant, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Mais comprenons bien que nous qui sommes ses enfants, nous bénéficions d'un amour encore plus éclatant, d'un amour encore plus présent, plus réel à nos yeux que pour le reste. Et donc cette illustration que l'Éternel emploie par rapport à Jacob et Ésaü, c'est cela. Beaucoup ont de la difficulté à comprendre comment Dieu peut aimer un et haïr l'autre. Dieu ne dit-il pas qui ne fait pas de favoritisme. Il faut comprendre aussi que dans l'hébreu, les termes aimer, haïr ne décrivent pas forcément des émotions divines, mais un choix. Un choix plutôt qu'un autre. Et en faisant ce choix, finalement, oui, Israël aurait dû voir que c'était un peuple unique, aimé, choisi. De la même manière que dans les situations où il y a un homme qui peut-être hésite entre deux femmes qu'il aime, avec qui il aimerait poursuivre une relation et se marier, à un moment donné, il doit faire un choix, n'est-ce pas? Et quand il fait ce choix, c'est une déclaration de cet amour et de cet intérêt pour cette personne-là, n'est-ce pas? Dieu en a fait de même. Il en a fait de même pour Israël. Haïr signifiait, oui, de rejeter, de refuser cet attachement à toute autre nation. Et ces mots ne déterminent pas non plus en eux-mêmes le destin éternel de Jacob ou d'Ésaü, parce qu'ils renvoient surtout aux actes de Dieu dans l'histoire, à travers ces deux nations issues de ces deux frères. Il faut comprendre aussi que par la suite, la descendance d'Ésaü a été très problématique aussi pour Israël. Beaucoup de conflits, de problèmes. Ce n'est pas question ici d'une animosité personnelle envers Ésaü, mais ce que l'on voit, c'est que puisque la descendance d'Ésaü a choisi de se nourrir de ressentiments, eh bien, ils ont manifesté cela par de l'hostilité envers le peuple d'Israël, de l'hostilité même envers Dieu. Oui, Dieu a rejeté Ésaü, sa descendance, parce que c'est un Dieu juste également. Et ce que Ésaü et sa descendance ont choisi d'être, de devenir, et de ce choix de rejeter Dieu et de faire du mal au peuple choisi de Dieu, eh bien Dieu applique sa justice aussi par rapport à cela. Mais voilà, l'un des obstacles les plus redoutables auxquels nous sommes confrontés, eh bien c'est peut-être la banalisation de la vérité. On le chante, on le dit, on le sait, Dieu nous aime. Mais ça ne veut pas dire forcément que chaque jour, eh bien, nous prenons le temps de méditer sur cet amour. Que chaque jour, nous sommes pleinement conscients de cet amour et que nous sommes remplis d'actions de grâce et de reconnaissance à Dieu pour cet amour. Je vous ai aimé. Est-ce qu'on prend pleinement conscience de la portée de ce que ce Dieu éternel, de ce Dieu créateur nous aime? Comment? Il nous aime chacun individuellement. Individuellement. Peut-être vous avez déjà vu cela, ces vidéos sur Internet où on commence par un endroit sur la planète Terre et puis on fait ce zoom arrière et puis on voit la planète et ensuite la Lune et puis finalement la galaxie et puis un peu plus loin, etc. Et ça nous ramène quelque part un peu à l'insignifiance de la race humaine et même de nous-mêmes par rapport à l'immensité de cet univers. Et pourtant, retenons ce que le psalmiste lui-même a dit dans le psaume 8, versets 4 et 6. « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Oui, malgré notre petitesse, Dieu nous aime. Comment Dieu a-t-il manifesté cet amour? Nous le savons. Il l'a fait en portant son affection sur tous ceux qui, eux aussi, ont choisi d'accepter la grâce de Dieu. Il l'a fait en portant son affection sur tous les croyants, et même, comme je l'ai déjà dit, avant la fondation même du monde, comme Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Éphésiens, que avant même la création du monde, Dieu nous avait déjà aimés, choisis pour de bonnes œuvres. On ne peut pas méditer et regarder à la personne de Dieu à travers ce que les Écritures nous disent sans voir l'amour de Dieu pour nous. Et lorsque nous comprenons cet amour, eh bien cet amour appelle le pécheur à la repentance, à placer sa foi en Christ. Pour nous qui avons déjà bénéficié de cette grâce, de ce pardon de nos péchés, ça doit nous amener à nous rapprocher toujours plus de lui. L'amour devrait produire l'amour. Et quand Dieu nous déclare cet amour et nous manifeste cet amour, qu'est-ce que nous lui répondons? La croix de Christ, lorsque nous repensons et méditons à ce que Christ a accompli pour nous, nous amène immanquablement à rejeter tout doute de son amour pour nous. Jésus a affirmé qu'il aime les siens tout comme le Père l'a aimé. De quelle manière est-ce que le Père a aimé le Fils? Sans mesure, sans changement, sans fin. Mais pourtant, il a dû faire ce choix de laisser le Fils donner sa vie, mourir pour nous. Et il l'a fait par amour pour nous. Alors oui, il peut arriver que nos circonstances nous amènent à nous demander si Dieu effectivement nous aime vraiment. Et vous pouvez être sûr que l'adversaire sera toujours là pour nous dire que ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'en regardant certaines circonstances, on pourrait se dire, bah oui, ça prouve que Dieu ne m'aime pas. Mais celui qui est sage, eh bien, va renvoyer le diable à la vérité de la parole de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ a tout accompli. Christ nous a rendus plus que vainqueurs. Quel amour, n'est-ce pas? Dieu nous aime. Ici, il dit « Je vous ai aimé », on pourrait penser que « Oh, c'est quelque chose de passé, c'est fini pour Israël, Dieu ne les aime plus ». Non! Parce que là encore, dans l'hébreu, dans la grammaire et dans le temps qui est employé ici, dans l'hébreu, eh bien, ça, c'est la notion que c'est, oui, un amour qui a été déclaré dans le passé, mais qui continue d'être déclaré dans le présent. Le verbe, ici, en hébreu, eh bien, établit de manière formelle que Dieu a continuellement aimé Israël, qu'il l'a aimé dans le passé et qu'il continue de l'aimer dans le présent. Dieu continue de nous aimer. Il y a ici une merveilleuse déclaration d'amour. Et pourtant, la réponse du peuple, c'est « En quoi est-ce que tu nous as aimés ?» Dieu parle ici d'un amour qui a commencé dans le passé, au moment où il avait choisi ce peuple, mais aussi d'un amour qui était toujours présent, malgré tout ce que ce peuple avait fait. Malgré toutes les fois où le peuple avait rejeté l'Éternel, avait rejeté son autorité, avait rejeté sa direction, avait choisi de vivre comme les païens, etc., Dieu a continué d'être fidèle et d'aimer. Je t'aime d'un amour éternel. Peut-être vous est-il arrivé donc de ressentir ces doutes par rapport à l'amour de Dieu pour vous. Et ce verset 2 nous rappelle que Dieu continue de nous aimer. Dieu continue de nous aimer. Et il a fait ce choix envers nous. Ce choix de nous aimer et avec cet amour de nous accorder tellement, n'est-ce pas? Nous sommes bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. Pierre nous rappelle également dans sa première épître au chapitre 2, verset 9, que nous, parce que Dieu nous a aimés et que nous avons accepté cet amour et que nous sommes devenus ses enfants, nous sommes devenus une race élue. N'est-ce pas? Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, et c'est ça qu'il faut se rappeler, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, s'accrochez à la vérité, parce que c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui libère, qui délivre, et qui nous délivre de nos doutes par rapport à l'amour de Dieu pour nous. Mais il y a aussi un troisième aspect temporel ici à l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous aimera. C'est Dieu nous a aimés, Dieu nous aime et Dieu nous aimera. Dieu est éternel, son amour est éternel, Et lorsque il dit au verset 5 que vos yeux le verront et vous direz grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël, eh bien oui, à un moment donné, face à la réalité de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu pour Israël, eh bien, les yeux seront ouverts et amèneront, eh bien, tous ceux qui ont ce doute à effacer ce doute et à glorifier Dieu et à voir la grandeur de Dieu, la grandeur de cet amour pour nous. Quand est-ce que ce jour devait-il arriver? Certains pensent que ça fait référence à quelques années plus tard où la nation d'Israël va pouvoir réussir à lutter contre eh bien, l'occupation, etc. Mais quand on est attaché au texte et quand on est attaché à voir eh bien, les prophéties de l'Ancien Testament concernant la venue du Messie, en sachant que ici, vraisemblablement, c'était parce qu'ils attendaient cet accomplissement eux-mêmes et qu'ils commençaient à douter de l'amour de Dieu pour eux, qu'il y a ce verset 5 qui nous rappelle que ce jour va arriver. Par sa naissance, par son ministère ici-bas, par son œuvre rédemptrice sur la croix, Christ a fait en sorte que, justement, Dieu soit magnifié au-delà des frontières d'Israël. Grand est l'Éternel. Et ceci est déclaré, non pas, eh bien, dans les territoires de Juda, d'Israël, mais à travers le monde entier. Nous avons des frères et des sœurs en Christ qui exaltent le Seigneur pour son amour. Grand est l'Éternel. Le fait même que des millions de personnes se rendent à l'église chaque semaine pour honorer le Seigneur prouve que cette promesse ici, faite au peuple d'Israël par la bouche de Malachi, son messager, montre que nous avons un Dieu qui est amour et qui a montré, démontré tellement de fois cet amour pour nous que nous ne devrions pas douter de cet amour. Cette promesse du retour de Christ pour nous, elle est assurée, tout comme l'a été cette promesse pour Israël de la première venue du Messie. Nous n'avons pas de doute à avoir que ce jour viendra et que nous le verrons tel qu'il est et que nous serons dans sa présence pour le louer et l'admirer et le magnifier d'une manière parfaite, n'est-ce pas? Ce jour où, comme nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 15, où d'une voix, d'une voix forte, le ciel sera rempli de ces paroles. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Pourquoi? Christ a prouvé son amour. Dieu a prouvé son amour pour nous. Il nous reste cette troisième chose face à cela, cette déclaration d'amour de Dieu, de cette réponse que Dieu attend. Il nous faut répondre à l'amour de Dieu par la foi. Hein, le doute est le moyen par lequel l'adversaire cherche à déstabiliser le croyant, et le doute, par définition, c'est tout le contraire de la conviction. Sommes-nous aujourd'hui convaincus de l'amour de Dieu pour nous? Pour cela, il est, oui, important, essentiel d'avoir la foi du cœur et non pas une foi par la vue. Celui qui ne reconnaît pas l'amour de Dieu avec les yeux de la foi, il va demeurer aveugle. Il ne va pas voir la bonté de Dieu là où elle est. Il ne va pas voir l'amour de Dieu manifesté là où il l'a manifesté. Il va chercher ailleurs. Il va dire « Tu ne m'aimes pas, tu ne m'as pas apporté suffisamment. Hein, » Comme pour certains couples, certains se disent « Tu ne m'aimes pas parce que tu ne m'as pas fait ceci, tu ne m'as pas donné cela, tu ne m'as pas accordé cela, etc. » Est-ce que ça change l'amour qui est déclaré? Non. Mais il y en a un qui a des attentes qui ne correspondent pas à cet amour. Une telle personne sera aveugle, insensible à toutes les expressions de l'amour de Dieu pour lui. Il va se frustrer dans l'envie, dans la jalousie, dans la rancœur qui sera suscitée directement ou indirectement par l'adversaire, par notre propre chair. Le problème, c'est que l'homme mesure l'amour de Dieu avec une règle très égocentrique. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Qu'est-ce que tu m'as donné? En ignorant déjà encore une fois tout ce que Dieu a déjà fait. Tout ce qui va le flatter, tout ce qui va l'élever, tout ce qui va le satisfaire, c'est ce que Dieu va pouvoir faire pour lui. Et sur cette base, il va dire oui, Dieu m'aime. Tout ce qui va être à l'encontre de ses désirs, de sa volonté, va être perçu comme une contrariété qui va découler de ce manque d'amour de la part des autres et de Dieu qui est arrivé à ce faux raisonnement, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, je n'ai pas ceci. Pourquoi est-ce que lui, il a ça, moi, je n'ai pas ? Et on finit par blâmer Dieu et croire qu'il ne nous aime pas. Le peuple d'Israël, à l'époque de Malachie, ne jouait sur pas mal de prospérité et du prestige que le peuple avait eu autrefois, hein, sous le règne de Salomon ou de David. Et pour eux, ça l'a amené à douter de l'amour de Dieu pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils regardaient à eux-mêmes, ils regardaient à cette prospérité, à ce prestige qu'ils pensaient ne pas avoir. Parce que leur vue était fixée sur ce que, par rapport aux autres, qu'est-ce que je suis ? Et n'ont pas regardé à ce que Dieu avait déjà inondé ce peuple de prospérité spirituelle, de richesse spirituelle. Et ils sont venus, en étant aveugles par rapport à cela, à douter de cet amour. Il est essentiel de se débarrasser de notre orgueil pour voir l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes, en tant qu'êtres humains pécheurs, bien trop souvent centrés sur nous-mêmes, focalisés sur notre propre personne. Augustin avait déclaré que l'amour de soi était le plus grand ennemi de l'amour de Dieu. Martin Luther décrivait cela comme le fait d'être replié sur nous-mêmes. Et lorsque nous sommes repliés sur nous-mêmes, que pouvons-nous voir d'autre que nous-mêmes ? Nos premières questions, même que nous posons souvent, hein, lorsqu'on va se rencontrer, c'est « Comment ça va ?» Quelque part, ce sont des questions qui nous aveuglent par rapport à l'amour et à la grâce de Dieu pour nous. Parce qu'à cette réponse de « Comment ça va ?», généralement, on va dire « Oui, ça va ». Parfois, on va être honnête et on va dire ouais, « Ça ne va pas, c'est dur ». Mais souvent, on néglige de saisir ces occasions de nous rappeler de l'amour de Dieu. Et quand ça ne va pas, en fait, on devrait dire « Ça va bien ». Ça va bien parce que Dieu m'aime. Ça va bien malgré les difficultés, malgré les épreuves. Ça va bien parce que Dieu m'aime et ça ne changera pas. Ne négligeons pas cette relation d'amour que Dieu veut pour nous. Ne soyons pas comme Israël à douter, à être cynique par rapport à l'amour de Dieu pour nous lorsque nous lisons les Écritures. Et que nous regardons notre propre vie à la lumière des Écritures, et que nous commençons à voir tout ce que Dieu a déjà fait pour nous et accompli pour nous par amour, on ne peut pas douter de cela. Pour conclure, comprenons bien que l'amour de Dieu à notre égard est quelque chose qui ne peut pas être quantifié. C'est incommensurable. C'est un amour qui a toujours existé parce que Dieu est éternel. Dieu œuvre constamment pour nous faire du bien. Mais souvent, on est un peu comme les enfants, lorsque les parents, quand les enfants sont tout petits et qu'il s'agit de leur nourrir parce qu'ils ne savent pas encore attraper la cuillère et la fourchette, et qu'ils vont tourner la tête parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas manger ce qu'on leur offre de bon pour eux. Et souvent, nous sommes comme cela. Dieu veut montrer son amour et sa grâce. Mais nous refusons de l'accepter selon ses termes à lui. Nous avons parfois donc le cou aussi raide que celui de ce peuple d'Israël d'autrefois. Et nous finissons par douter de son amour. Je crois qu'il faut de suite, immédiatement, éliminer la moindre forme d'ingratitude vis-à-vis de l'amour de Dieu pour nous, de ne plus douter de cet amour, compter les bienfaits de Dieu. Pourquoi ? Parce que visiblement, c'est chose grave. C'est la première chose que ici, l'Éternel, par rapport aux divers reproches qu'il va faire à son peuple, c'est « Vous doutez de mon amour. Vous doutez de qui je suis. » Et c'est grave. C'est quelque chose de trop grave aux yeux de Dieu pour que nous puissions tolérer cela même dans notre propre vie. Et quand viennent ces pensées de « Est-ce que Dieu m'aime vraiment ?» Tournez-vous vers la vérité, tournez-vous vers la parole de Dieu, tournez-vous vers ce que Dieu a déjà accompli. Prenez le temps de réfléchir à ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Et si vous voyez que, il n'y a peut-être pas tant que ça, posez-vous la question, est-ce que je suis vraiment proche du Seigneur? Est-ce que je suis vraiment dans cette communion avec lui et dans cette relation proche et personnelle avec lui? Ou est-ce que je vis ma vie en me disant que c'est bon, je suis sauvé, et puis Dieu, il est amour, et il est obligé de m'aimer, il est obligé d'être bon avec moi, il est obligé de montrer sa grâce envers moi, malgré tout ce que je pourrais faire qui m'éloigne de lui. Tout comme on va s'éloigner d'une source de chaleur, on ne peut pas s'attendre à avoir chaud si on est loin du feu. On ne peut pas s'attendre à ressentir l'amour de Dieu pour nous si nous ne sommes pas proches de lui. Rejetons donc toute pensée, tout doute par rapport à son amour. Prenez le temps d'examiner votre vie, d'examiner votre relation avec Dieu, d'examiner ce que Dieu a déjà accompli pour vous en Jésus-Christ. Nourrissez votre âme de ses vérités. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Et là, vous verrez, l'amour et la bonté de Dieu ne changent pas. Et plus nous sommes proches du Seigneur, plus nous voyons cet amour être de plus en plus intense dans notre vie. Mais si nous avons douté, pardonnons, demandons pardon, repentons-nous de cela, demandons pardon à Dieu d'avoir douté de cet amour et rapprochons-nous de lui. Prions.